Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'impression de rajeunir de 6 ans, là. Ça fait bizarre. Et très, 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 très heureux d'être avec vous. Ceci étant dit, maintenant, je vais régler mes comptes. Il y a parmi vous des gens qui avaient promis de venir nous voir, qui ne sont jamais venus. Alors, je ne cite personne, suivez pas mon regard, mais j'ai les noms. On est vraiment très très heureux d'être là ce matin avec vous. On vous remercie beaucoup, merci au conseil et à Manu de m'avoir invité. Alors je vous propose de lire un texte qui va nous servir de tremplin pour notre méditation ce matin, dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Alors c'est un texte que vous connaissez probablement. Au verset 8, c'est le texte qui nous raconte la victoire de Moïse sur les tribus d'Amalek. Donc, Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Merci. Alors, Moïse dit à Josué: « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Nous sommes, vous le savez, je crois, un peu de temps après la sortie d'Égypte, l'euphorie qui devait accompagner cet épisode extraordinaire pour les Hébreux est retombée. Et tout le monde s'aperçoit que, finalement, tout n'est pas aussi simple qu'on l'aurait imaginé. Tout le monde est fatigué, des tensions naissent, des récriminations s'élèvent. Bref, le peuple d'Israël est fragilisé, vulnérable. Et c'est à ce moment précis que les Amalécites, un peuple autochtone, choisissent pour attaquer. Le livre du Deutéronome, qui parle aussi de notre épisode, le souligne. Livre du Deutéronome, au chapitre 25, verset 17. « Souviens-toi, dit Dieu, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Il n'avait aucune crainte de Dieu, si bien qu'ils t'ont tendu le long du chemin un piège, alors que tu étais complètement épuisé. Ils ont attaqué les retardataires à l'arrière. » Les Amalécites apparaissent dans l'histoire biblique comme l'un des ennemis les plus acharnés d'Israël. L'Ancien Testament relate de nombreux conflits entre ces deux peuples. Nous avons ici devant les yeux le premier. C'est en particulier l'attitude de Moïse qui va nous intéresser ce matin. Il envoie Josué pour se battre et lui, nous dit le texte, se tient en arrière, sur les hauteurs, avec ce que le texte appelle le bâton de Dieu. Quand il lève les bras avec ce bâton, les Israélites dominent la bataille. Quand il baisse les bras, ce sont les Amalécites qui dominent. Ce bâton de Dieu, c'est le même que Moïse, vous le savez, a brandi au-dessus de la mer qui s'est ouverte en deux pour laisser passer le peuple hébreu qui sortait d'Égypte et qui était poursuivi par Pharaon et son armée. L'épisode est récent, impossible de ne pas y penser. Le message est donc clair. Comme le Seigneur a délivré son peuple de l'armée du Pharaon, Moïse espère qu'il délivrera, qu'il va délivrer le peuple d'Israël de son ennemi Amalek. Mais la bataille dure. Elle dure longtemps. Et Moïse se fatigue. Il a besoin d'aide. Alors Aaron et Hur vont venir pour maintenir ses bras en l'air. Et si nous regardons le texte, nous nous apercevrons qu'ils tiennent ses mains, ses bras, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la victoire complète. Alors je crois qu'on peut aussi voir dans la posture de Moïse une attitude. C'est une attitude de prière. En effet, au temps biblique, vous le savez aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, les Hébreux priaient toujours avec les mains levées. Vous savez très bien que c'est au Concile de Trente que tout a changé dans l'Église chrétienne. Et l'Église chrétienne, l'Église catholique, a tout fait pour ne pas ressembler au peuple hébreu. Les Hébreux lèvent les bras quand ils prient, nous, quand nous prions, nous les joignons. Les Hébreux, quand ils prient, ils ont les yeux ouverts, nous, nous les fermons. Il y en a quatre qui suivent, c'est bien. Quand les Hébreux prient, ils lèvent les yeux au ciel, nous, nous les baissons. Bref, nous faisons tout le contraire. Et dans ce texte, ici, Moïse élève les mains. On trouve à plusieurs reprises dans le livre des Psaumes cette expression « je lève les yeux, je lève les mains vers le Seigneur ». Ainsi, sur la colline, lorsque Moïse levait ses bras, il implorait Dieu pour la victoire. Lorsqu'il baissait ses bras, il cessait de prier. Et grâce à l'aide d'Aaron et de Hur, il a persévéré dans la prière jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la victoire totale. Alors, je voudrais que nous nous posions cette simple question ce matin. Qu'est-ce qu'un tel récit peut nous dire aujourd'hui ? Les Amalécites ont disparu, mais pour nous, ils peuvent représenter sans doute plutôt nos ennemis, extérieurs ou intérieurs, qui profitent de nos situations de faiblesse, de vulnérabilité pour nous attaquer, pour chercher à nous détruire. Et l'exemple de Moïse peut nous inspirer face à l'adversité. Avez-vous noté que dans ce récit, Dieu ne parle jamais ? Il ne dit pas à Moïse d'attaquer les Amalécites, il ne lui dit pas de monter sur la montagne, il ne lui dit pas de brandir son bâton. Visiblement, dans notre texte, Moïse fait tout cela de sa propre initiative. Mais il ne le fait pas sur un coup de tête. Moïse a appris par expérience passée qu'il n'attend pas que Dieu lui dicte tout et que lui accomplisse. Et je crois qu'il y a ici une leçon pour chacun d'entre nous. Je parlais dernièrement avec une personne dans une église à Strasbourg, c'était la semaine dernière, qui me disait « J'attends ». Alors je lui disais « Mais vous attendez quoi ?» Et elle me disait « Mais j'attends que Dieu me fasse signe ». Ce à quoi j'ai répondu « Vous pouvez attendre longtemps ». Face à l'adversité, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est que nous sachions prendre des initiatives. Dieu ne veut pas de robots. Il ne veut pas de chrétiens qui obéissent sur commande. Ce que Dieu veut, c'est des disciples qui soient responsables, qui soient adultes spirituellement, capables d'agir, capables de réagir avec sagesse et avec discernement. Évidemment, en prenant des initiatives, on risque de se tromper. Que celui qui ou celle qui ne s'est jamais trompé me lance la première chaise. Parfois, on fera des mauvais choix. Mais c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on avance. Dieu veillera sur chacun de nous. Et nous croyons que Dieu est grand pour corriger nos erreurs. Alors quand je dis ça, je dis tout de suite, attention, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Moïse, dans notre texte, n'a pas fait n'importe quoi. Sa réaction était réfléchie et elle était sensée. Elle s'appuyait sur ce que Dieu avait promis et sur ce qu'il avait déjà accompli pour son peuple. Bien sûr, parfois nous aurons besoin d'aide face à des situations difficiles, nous aurons besoin d'aide. Mais bien souvent, Dieu s'attend à ce que nous fassions preuve de logique, de discernement, d'initiative. C'est aussi très spirituel de prendre des initiatives, d'agir, sans attendre toujours un ordre de mission ou un feu vert explicite. Mais je vois que l'heure avance, la pendule n'a pas changé. Je voudrais vous parler de ce bâton, parce que on parle beaucoup du bâton de Dieu sans l'expliquer. Il tenait le bâton de Dieu à la main. On l'a dit, c'est le même que Moïse avait utilisé lors de la traversée de la mer. Cette fois-là, d'ailleurs, Dieu lui avait dit « Lève ton bâton, lève-le bien haut au-dessus de la mer. » Brandir le bâton de Dieu, c'est se souvenir. C'est se souvenir donc des délivrances que Dieu a accordées, de ce que Dieu a déjà accompli et de ce qu'il a promis de faire. Voilà aussi ce que nous sommes appelés à faire face à l'adversité, nous souvenir que Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Pourquoi le ferait-il maintenant? Face à l'adversité, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous saisir des promesses de Dieu. Pas plus que le bâton de Moïse n'avait de vertu magique, les promesses de Dieu ne sont pas des formules magiques par lesquelles nous allons remporter la victoire. Mais les promesses de Dieu, celles qui sont consignées dans sa parole, celles qui découlent de l'œuvre accomplie par le Christ mort et ressuscité, ces promesses sont précieuses face à l'adversité. Elles nous rappellent que Dieu nous aime, qu'il ne nous abandonnera jamais. Elle nous rappelle que la mort n'aura pas le dernier mot parce que Jésus-Christ l'a vaincu le dimanche de Pâques. Elle nous permet de tenir ferme, de résister, d'endurer avec patience parce que vous et moi, nous avons une espérance. N'hésitons pas, frères et sœurs, à brandir le bâton de Dieu, à nous remémorer les promesses de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. L'autre aspect étonnant de cette bataille, c'est l'aide d'Aaron et de Hur à Moïse, pour qu'ils puissent garder les mains levées jusqu'au coucher du soleil. Si les bras levés de Moïse sont bien un signe de prière de sa part, alors on comprend qu'il a dû lutter aussi dans la prière avec persévérance. Et que dans ce moment de prière, Moïse a eu besoin d'aide pour y parvenir. Ce qui me fait dire que face à l'adversité, vous et moi, nous avons besoin d'aide. L'adversité ne cessera jamais. Que nous croyions ou pas, nous avons tous à lutter, tout au long de notre vie, contre des ennemis extérieurs, contre des ennemis intérieurs à nous-mêmes. Et nous avons tous et toutes nos combats, nos fragilités qui nous rendent vulnérables, qui nous menacent, parfois qui nous font tomber et qui veulent nous détruire, chacun pour notre part. Nous savons quels sont ces combats. La première aide dont nous avons besoin, c'est celle de Dieu. Dans l'adversité, prions. Avec persévérance, comme Moïse a gardé les bras levés. Prions pour demander de l'aide à Dieu. Jésus lui-même nous invite, lorsqu'il intègre dans le Notre Père, la prière qu'il enseigne à ses disciples. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais il peut aussi arriver dans notre vie chrétienne que nous ayons besoin d'une aide supplémentaire. Nous avons tous et toutes ce matin, dans notre vie, besoin des Aaron et des Hur, qui sont là pour nous soutenir, qui sont avec nous sur la colline, qui trouvent des pierres pour que nous puissions nous asseoir, qui nous maintiennent les bras levés pour que nous puissions continuer la prière. Nous avons besoin de compagnons de route qui se tiennent à nos côtés pour prier avec nous. Et si nous ne trouvons pas d'aide dans notre Église, alors je pose cette question. Où la trouverons-nous? Je conclus. L'adversité, c'est notre lot commun. Et nos adversaires peuvent autant nous être extérieurs qu'intérieurs. Mais ils sont bien là. Et la vie est un combat. La vie chrétienne est un combat. Face à l'adversité, l'exemple de Moïse dans notre récit nous invite ce matin à prendre des initiatives, à nous saisir des promesses de Dieu et à demander de l'aide. Moïse et le peuple d'Israël ont été secourus par Dieu. Ils ont vaincu les Amalécites, leur pire ennemi. Alors, à plus forte raison, pouvons-nous espérer dans le secours du Christ qui a vaincu la mort, cet ennemi ultime. Il combat avec nous, il se tient sur la colline avec nous, il nous permet de rester debout et il nous relève si nous tombons. Face à l'adversité, le Christ est en nous, il est avec nous. C'est notre plus grand espoir. En toutes circonstances, Dieu est Dieu et il ne nous trahira jamais. Ce qu'il a promis, il l'exécutera. Parce que Dieu, nous dit la Bible, n'est pas un homme pour mentir. Il tiendra ses promesses. Il sera notre secours. Il sera ton secours. Prions, persévérons, soyons un. Aimons-nous les uns les autres. Contre l'amour, l'ennemi ne peut rien. Rien. L'amour, c'est le plus grand des dons. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. L'amour, c'est pas simplement « bonjour, comment tu vas, je vais bien, et toi, ça va, merci, ça va, à dimanche ». L'amour, c'est beaucoup plus que cela. Est-ce que nous sommes capables ce matin de citer une personne dans notre communauté pour laquelle nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est ? Une seule. Si ce n'est pas le cas, alors il faut que vous revoyiez votre copie, mes amis. Parce que Dieu ne nous a jamais dit « soyez sympas les uns envers les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, c'est beaucoup plus que de l'amitié. Alors, ensemble, nous allons lutter. Ensemble, nous allons prier. La vie est un combat, mais c'est un combat qui est gagné d'avance, car Dieu sait, il est le seul à savoir quelle sera l'issue de ce combat. Mais quelle que soit l'issue de ce combat, notre confiance, elle est en lui et en lui seul. Que Dieu nous aide à traverser ces temps présents sans perdre de vue l'éternité. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions parce qu'elle nous guide. Elle est comme une boussole dans notre vie. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, nous te louons parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Merci parce que nous nous attendons à toi. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu prends soin de chacun d'entre nous et que notre vie, elle est entre les mains, entre tes mains, mais elle n'est certainement pas livrée au hasard. Et nous te remercions pour cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.